VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Burundi, deux corps ont été retrouvés ce jeudi dans les quartiers de Nyakabiga et de Moussaga dans l'agglomération de Bujumbura. Une grenade a également été lancée au centre-ville, semant la panique au marché de Djabé, un des quartiers qui conteste le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Par ailleurs, 18 Bangladais ont été appréhendés mercredi dans une maison de la commune de Mutimbuzi, en province de Bujumbura rurale. Des personnes en possession notamment de faux documents d'identité. Plus de détails avec le porte-parole adjoint de la police, Moïse Nkurunziza.
Ces hommes-là, c'est des papiers à leur disposition. Certains disent qu'ils viennent de passer deux mois dans cette maison, d'autres un mois et d'autres quelques jours. Même ceux qui possèdent des documents, semble-t-il que ce sont des documents faux, du moment qu'on a trouvé sur eux des faux visas de la République sud-africaine. On a trouvé également sur eux d'autres documents comme 11 passeports pour des gens qui ne se trouvent pas dans cette maison. Ce qui laisse à penser qu'il y aurait un autre groupe qui serait ailleurs et qu'on est en train de chercher encore. On a saisi sur eux également des téléphones et une machine portable pour prise d'informations. Et les enquêtes sont en cours pour identifier qui sont ces hommes, dont ils sont venus et pourquoi ils sont ici au Burundi. 18 personnes dans une maison en clandestinité. Ce sont les enquêtes qui vont déterminer s'il y a une liaison entre l'insécurité qui règne ici à Bujumbura.
Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police burundaise. Nouvelle prorogation de la transition RCA, décision annoncée aujourd'hui par la CERC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Le décret en ce sens, signé par le leader gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de l'organisation, stipule que la transition politique en RCA est prolongée du 31 décembre 2015 au 31 mars 2016 pour permettre aux autorités centrafricaines d'organiser des élections législatives et présidentielles crédibles et transparentes avant la fin du mois de mars 2016. En RDC, mise en garde de l'Église catholique à un peu plus d'un an de la fin du mandat du président Joseph Kabila et des prochaines échéances électorales. Les évêques du pays ne cachent pas leurs préoccupations et ils proposent une série d'initiatives dont nous parle l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La situation du pays est préoccupante et même inquiétante. Quand on voit l'approche des échéances électorales, ça apporte son lot de restrictions de liberté, d'intimidation. Alors en père spirituel, ils ont voulu lancer un appel pour l'engagement de tous pour la paix d'abord, mais aussi pour le respect de la Constitution. Pour nous, c'est le respect de la Constitution, la sauvegarde de la démocratie et aussi de l'intégrité territoriale. Voilà pourquoi, en tant que père spirituel, il lance 4 initiatives comme action. D'abord, une neuvaine de prières à partir du 8 décembre. Dans toutes les paroisses, les chrétiens vont se mettre à prier pour la paix dans notre pays. Deuxièmement, la marche du 16 février, marche historique, ça sera le 24e anniversaire. Les évêques appellent encore à une nouvelle marche pacifique pour plus de démocratie dans notre pays. Troisième initiative, ce premier samedi du mois, dans le groupe d'action catholique, les chrétiens vont se réunir pour prier aussi pour la paix, pour la justice, pour la démocratie. Et quatrième initiative, c'est au cours de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en janvier du 18 au 25, qu'il y ait donc la prière avec d'autres confessions sur la paix.
L'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. La tournée du pape en Afrique maintenant. Le pape François continue sa visite à Nairobi au Kenya, première étape de son périple africain. Lors d'une messe dans la matinée en présence de plus de 100 000 fidèles, il a appelé les Kenyans à défendre la famille. Après avoir mis les jeunes en garde contre l'extrémisme dans un pays régulièrement frappé par les attaques des islamistes radicaux comme les Chebabs de la Somalie voisine. Plus de précisions sur le message papal avec le président de la Conférence épiscopale du Burundi, Monseigneur Gervais Banchimi Yobusa, contacté par Eric Manirakiza.
Le message qu'il a donné, c'est un message évangélique. Et l'évangile est toujours en train de parler de justice, de vérité, d'appel à la paix. Alors, dans la mesure où nous savons ouvrir nos cœurs comme chrétiens, en sachant que celui qui vient, c'est un envoyé de Dieu, c'est un apôtre, nous pourrons certainement y trouver des possibilités d'aller de l'avant en améliorant ce qui doit l'être et en corrigeant même certaines choses qu'il faut corriger.
Maître Monseigneur Gervais Bonchimi Yubusa, joint à Ngozi dans le nord du Burundi par Eric Manira Kiza.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Nouvelle attaque de Boko Haram au Niger. 18 personnes ont été tuées, 11 autres blessées par des militants de la secte islamiste hier soir à Wogom, village situé près de la localité de Bosso dans le sud-est du pays à la frontière avec le Nigeria. En plus des victimes, près de 100 habitations ont été incendiées, a affirmé à l'AFP Bako Mamadou, le maire de Bosso. Depuis février, les attaques de Boko Haram dans cette région frontalière ont forcé plus de 47 000 personnes à fuir leur village, selon l'ONU. Et puis au Nigeria même, nouveau casse-tête pour le président nigérian Muhammadu Buhari, déjà menacé par les insurgés islamistes de Boko Haram. Le Nigeria est maintenant confronté à une nouvelle poussée séparatiste dans le sud, notamment dans la région du delta du Niger, où des activistes réclament le contrôle des revenus pétroliers. Le sud-est aussi est secoué depuis plusieurs semaines par une nouvelle série de manifestations revendiquant la création de nouvel État au Biafra. 45 ans après la fin d'une sanglante guerre civile déclenchée par une déclaration d'indépendance de cette région. Et puis au Burkina Faso, dernière ligne droite vers les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. À quelques jours de cette échéance cruciale, les organisations de la société civile se mobilisent pour que ce double scrutin prenne non seulement en compte les aspirations des populations, mais surtout se déroule dans un climat de transparence et d'acceptation des résultats par tous. Le MDBHP, une organisation de la société civile, veut être les yeux et les oreilles du peuple burkinabé. On écoute son coordonnateur, Lansana Saint-Poré.
Nous avons opté de faire une observation qualitative. Toutes les 45 provinces sont couvertes et nous avons des gens qui seront fixés dans des bureaux de vote. Les observateurs sont tenus de suivre de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats et tout. Au niveau de chaque province, après les élections, chaque province va faire ses constats. Et le jour là, nous avons demandé, le président l'a dit, on fera appel à vous pour donner notre point à chaud. Parce que dès donc la clôture des bureaux de vote, nous devrons recevoir à notre niveau tous les points au niveau donc des 45 provinces du pays.
Lansana Saint-Poré, coordonnateur du MDBHP, propos recueillis par notre correspondant au Burkina, Issa Napon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, ici à Washington, sérieuse inquiétude des militaires américains après l'annonce par la Russie qu'elle allait déployer des missiles anti-aériens dernier cri sur une de ses bases en Syrie. Les précisions de Lionel Gaïma.
Moscou a annoncé envoyer ses systèmes S-400 sur la base de Latakia située dans l'ouest de la Syrie. Les missiles S-400 ont une portée de 400 km et représentent une menace éventuelle pour les avions de la coalition menée par les États-Unis. Celle-ci a effectué depuis plus d'un an environ 8000 frappes en Irak et en Syrie contre les djihadistes du groupe État islamique. La Russie bombarde également depuis plusieurs semaines le groupe État islamique ainsi que les opposants au régime de Bachar al-Assad en Syrie, mais dans des zones différentes de celles visées par la coalition. Moscou et Washington se sont mis d'accord sur un minimum de coopération afin d'éviter tout risque d'accident entre pilotes de deux pays, mais la perspective de voir des batteries de missiles anti-aériens déployées en Syrie n'est pas faite pour rassurer le Pentagone. Il s'agit d'un système d'armement performant qui représente une menace significative pour tout le monde, a regretté un responsable militaire américain sous couvert d'anonymat. L'annonce du déploiement des missiles S-400 intervient après que mardi, l'aviation turque ait abattu un chasseur-bombardier russe le long de la frontière syrienne. Ankara affirme qu'il se trouvait dans l'espace aérien turc, tandis que Moscou assure à l'inverse qu'il a été abattu dans le ciel syrien.
La tension reste forte entre Ankara et Moscou après la destruction du bombardier russe. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aujourd'hui que son pays ne présenterait pas des excuses à la Russie pour l'incident. Or, son homologue russe Vladimir Poutine avait auparavant déploré qu'Ankara ne s'était pas excusé et n'avait pas offert des compensations ni promis de punir les responsables de l'attaque contre le bombardier. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.